Bienvenue dans l'instant lecture ou les feuilles de myosotis sur Radio Arc-en-Ciel. Marcel Pagnol, Le temps des secrets, troisième épisode, rencontre dans les collines. La gloire de mon père, le château de ma mère, le temps des secrets, dont je vous ai lu déjà des extraits, raconte les souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol. Ils ont pour cadre une villa dans les Hauts de Marseille, louée pour les vacances. Le narrateur est le jeune Marcel. Alors qu'installé sur la terrasse, je lisais pour la troisième fois l'île mystérieuse, ma mère parut sur le pas de la porte. « Le teint qui me reste tombe en poussière. Va dans la colline m'en chercher. Tâche aussi de trouver des fenouilles. J'irai tout à l'heure, quand j'aurai fini mon chapitre. Tu le finiras après. C'est pressé. Le civet est pour midi. » Il m'était pénible d'abandonner les héros de mon roman en pleine bagarre et il me parut juste de monnayer mon sacrifice. « Bon, je vais y aller tout de suite, mais alors donne-moi 2 biscuits. » Elle ne discuta pas mon prix et me les apporta. La matinée était déjà chaude et les cigales grésillaient éperdument. Je courais à flanc de coteau dans l'herbe sèche de l'été, précédée par un feu d'artifice de sauterelles rouges et bleues qui fusaient en éventail. Je vis bientôt une longue bande de thym. J'en arrachai sans peine quelques belles touffes, puis je plongeai sous les ombelles à grains d'or d'une forêt de fenouilles. Avec mon couteau de berger, je tranchai les plus jeunes pousses. Je fus aussitôt entouré par une délicieuse odeur, celle des berlingots à l'anis. Alors que je débouchais sur le sentier, je m'arrêtai net. Sur une grosse pierre blanche, à l'ombre d'un pin, une étrange créature était assise. C'était une fille de mon âge, mais qui ne ressemblait en rien à celle que j'avais connue. Sur de longues boucles d'un noir brillant, elle portait une couronne de coquelicots et elle serrait sur son cœur une brassée de blanches clématites mêlée d'iris des collines et de digitales roses. Immobile et silencieuse, elle me regardait. Ses yeux étaient immenses et violets comme ses iris. Elle ne paraissait ni effrayée ni surprise, mais elle ne souriait pas et elle ne disait rien, aussi mystérieuse qu'une fée dans un tableau. Je fis un pas vers elle, elle sauta légèrement sur le tapis de thym. Et je vis que ce n'était pas une fée, car elle avait aux pieds des sandales blanches et bleues comme les miennes. Elle me demanda « Quel est le chemin qui mène au Bellon ?» Elle avait une jolie voix, toute claire. Je répondis aussitôt « Tu t'es perdue ?» Elle fit un pas en arrière en me regardant à travers ses fleurs. « Oui, dit-elle, je me suis perdue, mais ce n'est pas une raison pour me tutoyer. Je ne suis pas une paysanne. » Je la trouvais bien prétentieuse et j'en conclus qu'elle était riche. Ses chaussettes blanches étaient bien tirées, sa robe bleue brillait comme du satin et elle portait autour du cou une chaîne d'or qui soutenait une médaille. « Eh bien, dit-elle, de quel côté ?» Je lui montrai de la main au bout du vallon la patte d'oie de 3 sentiers. « C'est celui de droite. »« Merci. » Je la regardais s'éloigner sur le sentier. Je l'entendis traverser la haie, puis elle appela. Psst ! Je ne bougeais pas. Elle recommença. Psst ! Psst ! Je me retournai. C'est vous qui faites ce bruit ? Je vous appelle, dit-elle sur un ton assez vif. Vous n'avez pas trouvé le chemin ? Elle me répondit, indignée. Vous savez bien qu'il est barré par d'énormes toiles d'araignées. Il y en a au moins 4 ou 5, et la plus grosse a voulu me sauter à la figure. Vous n'avez qu'à contourner l'étoile. Le vallon est assez large pour ça. Oui, mais il faudrait marcher dans ces hautes herbes, et ça serait encore plus dangereux. J'ai vu courir un animal énorme, long et vert. Elle me regardait d'un air plein de reproches, comme si j'étais le responsable de la sécurité de ces territoires. Je compris qu'elle avait vu un limbert, un grand lézard. Mais parce qu'elle m'agaçait, je dis d'un air tout à fait naturel. « Ce doit être un serpent. Ici, c'est le vallon des serpents. »« Ce n'est pas vrai. Vous dites ça pour m'effrayer. » Mais elle regardait dans l'herbe de tous les côtés. Je repris. « Il n'y a pas de quoi avoir peur, parce que ce sont des couleuvres. C'est froid, mais ça n'a pas de poison. » Il n'y a qu'à faire du bruit, elles auront plus peur que vous. » Après un long silence, elle dit. « Quand un garçon est galant, il n'abandonne pas une demoiselle dans un endroit aussi dangereux. » Je ne répondis rien. Je réfléchissais. Il devait être plus de 10 heures et il me fallait rapporter le thym à la maison. Mais la destruction de ces araignées ne m'obligerait pas à un grand détour. Elle avait dû réfléchir de son côté, car elle reprit. « Pour en finir, je vous autorise à me tutoyer 2 ou 3 fois si vous venez chasser les araignées. » Elle parlait sur le ton d'une princesse, mais je vis la peur dans ses yeux. « Allons-y, dis-je. « Mais je n'ai pas besoin de vous tutoyer pour ça. » Je ramassai mes bottes de fenouil et de thym, je brandis mon bâton et je la précédai d'un pas décidé. Lorsque des buissons de myrte s'avançaient sur le chemin, je frappai les arbustes avec mon bâton et poussai des cris féroces. Puis, quand j'étais sûre que la broussaille était inhabitée, car je craignais d'y rencontrer les serpents que je venais d'inventer, j'y pénétrai à grand bruit. J'atteignis bientôt les lieux du danger. Une grande toile en forme de cerf-volant hexagonal barrait le sentier. Au centre, habillée de velours noir à raies jaunes, brillait l'araignée, aussi grosse qu'une noix. Je m'arrêtai et touchai légèrement la bestiole. Elle se mit à secouer furieusement sa toile avec une amplitude croissante, comme pour prendre son élan avant de s'élancer sur moi. Mais je savais que c'était de la comédie et qu'elle n'en ferait rien. Je demeurais donc impassible. Cependant, le bouquet reculait pas à pas, avec de petits cris de terreur. Après 1 minute de ce jeu héroïque, je levai mon bâton pour l'estocade finale et coupai en 2 le fragile filet de soie. L'araignée tomba dans l'herbe. Je l'écrasai sous mon talon et je continuai ma route sans daigner me retourner. La fille franchit en courant le lieu de cette victoire, tandis que je marchais en battant les buissons à droite et à gauche comme un chef d'orchestre. À la patte d'oie, je l'attendis. Voilà votre chemin. Là-bas, au tournant, vous verrez les bêlons. « J'ai bien peur, dit-elle, de me perdre encore une fois. Je vous autorise à m'accompagner. Si c'était un autre jour, dis-je peut-être, mais aujourd'hui je ne peux pas. Bien. Puis, sur un ton de dépit, elle ajouta, « Merci quand même. » Elle jeta ses fleurs dans l'herbe et alla s'asseoir au bord du chemin, ses mains croisées serrant ses genoux. Elle était vraiment très jolie. Ses paupières bistrées étaient bordées de cils épais, gracieusement recourbés. Je m'approchai. « Vous allez rester là ?»«
Évidemment, »
dit-elle. « J'attendrai que quelqu'un passe. »« Ici, il ne passe personne. »«
Eh bien, quand ma mère verra que je ne rentre pas, elle avertira des paysans. »« Ils viendront me chercher. »«
Puisque vous êtes si pressé, allez-vous-en. »«
Vous comprenez, » lui dis-je, « ma mère attend le thym. »«
Si je suis trop en retard, elle va me gronder. » »«
Si vous lui expliquez que vous avez sauvé une jeune fille perdue, elle n'en aura pas le droit. »
Je réfléchis encore une fois. L'ombre des pins se ramassait autour de leur tronc. Il était sans doute plus d'11 heures. Elle me fit un sourire triste, puis une petite grimace, comme si elle allait pleurer. « Venez, dis-je, allons-y !»
Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre lecture. Le temps de quelques feuilles.